Je suis choisi. Il y a presque 20 ans, j'ai obtenu mon diplôme de séminaire. Le jour de la remise des diplômes, je me suis assis dans la grande salle avec les autres étudiants et j'ai regardé le programme de la cérémonie. Il y aurait quelques discours, quelques chansons et des prix pour les meilleurs étudiants. J'ai toujours aimé apprendre, mais je n'ai jamais vraiment aimé l'école. Alors j'ai toujours été un étudiant assez moyen. J'aimais m'asseoir au fond ou au milieu, jamais à l'avant. Nous savions tous qui étaient les meilleurs étudiants. Donc en regardant la liste des prix, je pouvais deviner quel étudiant gagnerait. Je savais que je ne gagnerais aucun prix. Mais en parcourant la liste des récompenses, j'ai vu un prix pour le meilleur étudiant missionnaire. Les missions étaient la raison pour laquelle je suis allé au séminaire. Je n'ai jamais vraiment voulu être pasteur. Je voulais d'abord être missionnaire, puis je suis devenu pasteur plus tard. Donc, au séminaire, j'étais dans la filière des missions. Mais une partie de ce parcours exigeait de faire un stage de 2 mois dans un autre pays. J'ai fait le mien à Donetsk, en Ukraine, en 2007. Mais cette exigence de 2 mois a poussé beaucoup d'étudiants à changer de programme. Ils ne voulaient pas faire le stage, alors ils optaient pour une autre filière que celle des missions. À la fin de mon programme, parfois mes cours ne comptaient que 3 ou 4 autres étudiants. J'ai donc commencé à penser à ces étudiants, et j'ai réalisé qu'aucun d'entre eux ne recevait son diplôme ce jour-là. Il l'obtiendrait l'année suivante. Et puis j'ai compris. Est-ce que je vais recevoir un prix académique aujourd'hui? Je veux dire, je ne méritais pas cette récompense. D'autres étudiants passaient bien plus de temps que moi à la bibliothèque. D'autres étudiants faisaient les devoirs supplémentaires. Ils méritaient un prix, pas moi. Mais le moment est venu pour cette récompense, et bien sûr, ils ont prononcé mon nom. Ils m'avaient choisi. Je suis monté sur scène, et j'ai découvert que cet honneur était accompagné de $500. Après, ma mère m'a dit qu'elle était si fière de moi pour avoir travaillé si dur. Je ne lui ai pas dit que j'étais probablement le seul candidat. Mais cette récompense était une confirmation du Seigneur que j'étais sur la bonne voie, que je devais continuer à poursuivre les missions. Et quelques mois plus tard, quand il a été temps de recueillir un soutien financier pour venir ici en Pologne, j'avais déjà un peu d'argent de départ. Nous avons commencé avec ces $500. Cela fait tellement de bien d'être choisi, quelle qu'en soit la raison, n'est-ce pas? Cela fait tellement de bien d'être sélectionné. Ce matin, je veux commencer une nouvelle série de sermons en étudiant le livre des Éphésiens. Au cours des prochaines semaines, nous explorerons les nombreux thèmes dans Éphésiens qui touche à la vie chrétienne. Avoir un but, la grâce, l'Église, l'unité, la famille, les combats spirituels auxquels nous faisons face, etc. Aujourd'hui, dans le chapitre 1, nous verrons ce que signifie être choisi par Dieu. Donc, si vous avez une Bible, veuillez l'ouvrir avec moi à Éphésiens 1. 1 Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. 2. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. L'auteur de cette lettre est Paul. Paul était un apôtre de Jésus-Christ. Apôtre, qui signifie messager, est un terme le plus souvent utilisé dans le Nouveau Testament pour désigner les disciples les plus proches de Jésus-Christ, personnellement appelé par lui et envoyé pour prêcher ses enseignements. Avant de rencontrer Christ, Paul était un ennemi de l'Église. Il persécutait l'Église. Mais sur le chemin de Damas, il a rencontré Jésus. Jésus l'a sauvé par la volonté de Dieu, comme il est dit au verset 1. La grâce est un grand thème dans le livre des Éphésiens, et Paul comprenait certainement la grâce à travers les événements de sa propre vie. Paul dit, aux saints qui sont à Éphèse et qui croient en Jésus-Christ. Donc c'est Paul qui écrit à une église spécifique à Éphèse. Et ceci est une lettre. Si je vous écrivais une longue lettre, commenceriez-vous à la lire par le début, le milieu ou la fin? Par le début, n'est-ce pas? Mais bien souvent nous essayons de lire la Bible à partir du milieu et nous disons « je ne comprends pas ». Ainsi, dans les prochaines semaines, nous allons étudier cette lettre du début à la fin, afin de bien comprendre le contexte de ce que Paul écrit. La première moitié de la lettre concerne qui nous sommes en Christ. La seconde moitié traite de la façon dont nous devons vivre à cause de notre relation avec Jésus. Donc, Paul écrit à une église. Il appelle les personnes de l'église « saints ». Parfois, lorsque nous disons le mot « saint », nous pensons à des personnes super spirituelles qui ont accompli des choses extraordinaires. Mais dans la Bible, « saint » fait référence à des croyants, pas à des personnes extraordinaires. Si vous croyez en Jésus, vous êtes un saint, selon la parole de Dieu. Cette église se trouve dans la ville d'Éphèse, qui se situe aujourd'hui dans l'ouest de la Turquie. J'ai eu le privilège, il y a quelques années, de visiter Éphèse, et la ville est très bien préservée. Ainsi, Éphèse n'est pas une ville inventée. C'est un lieu historique que l'on peut visiter aujourd'hui, et où l'on peut voir de nombreux sites évoqués dans le Nouveau Testament. Paul a écrit « Que la grâce et la paix vous soient données, de la part du Seigneur ». Dire « grâce à vous » était une salutation grecque courante à l'époque. Mais Paul y ajoute la salutation juive traditionnelle de paix. Grâce et paix résument parfaitement ce que signifie vivre une relation avec Jésus. Le passage suivant, des versets 3 à 14, constitue une seule longue phrase dans le grec, dans la langue originale. À l'époque, on n'utilisait pas la ponctuation afin d'économiser du papier, donc la ponctuation a été ajoutée plus tard. Ainsi, même si nous allons l'étudier verset par verset, rappelez-vous que ce passage représente une seule et longue pensée. 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis en Christ de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Paul commence cette section par une louange. « Béni soit Dieu » était une offrande de louange typique chez les Juifs à cette époque. Mais Paul ajoute ici quelque chose de nouveau. Paul écrit « Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». Par Jésus-Christ, en croyant en sa mort, son ensevelissement et sa résurrection pour le pardon des péchés, nous ne recevons pas seulement quelques-unes des bénédictions spirituelles disponibles de la part de Dieu. Nous avons, selon le verset 3, toute bénédiction spirituelle. En d'autres termes, si vous êtes un disciple de Jésus, non seulement vous êtes béni, mais vous avez toute bénédiction spirituelle. Parfois, nous pouvons regarder quelqu'un qui a beaucoup d'argent et dire « Waouh, tu es béni ». Ou vous pouvez regarder quelqu'un qui est marié et dire « Waouh, tu es béni ». Vous regardez quelqu'un qui a du succès et vous dites « Waouh, cette personne est bénie ». Nous regardons à l'extérieur et nous disons « Waouh, cette personne doit vraiment être bénie ». Ces choses sont des bénédictions. Mais cela ne veut pas dire que vous êtes moins béni en Jésus-Christ. La bénédiction vient de l'intérieur. Plus loin dans la lettre, Paul révèle qu'il écrit cette lettre depuis la prison, à Rome. Maintenant, Paul est-il moins béni en prison que s'il était libre? Non. Tout ce que signifie être béni en Christ est accessible pour nous, ici et maintenant, en ce lieu. Mais c'est aussi accessible à tous les chrétiens qui sont en prison en ce moment. C'est accessible à tous les chrétiens qui sont actuellement à l'hôpital. Les bénédictions spirituelles viennent de l'intérieur. Je pense que nous comprenons souvent mal cela. Jésus n'a pas dit « heureux les bien portants, heureux les riches, Heureux les personnes à l'aise et qui réussissent. Lorsqu'il a prononcé le sermon sur la montagne, non, il a dit, heureux les pauvres en esprit. Heureux ceux qui pleurent. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice. C'était la situation de Paul. Il n'était pas en prison parce qu'il était un voleur. Il était en prison parce qu'il était persécuté pour avoir prêché l'Évangile. Le monde dirait, pauvre Paul. Jésus dit, Paul, tu es béni. En Christ, tu es béni de toute bénédiction spirituelle. Peu importe ta situation aujourd'hui, que tu sois riche ou pauvre, en prison ou hors de prison, célibataire ou marié, employé ou sans emploi, en bonne santé ou malade, tu es béni. Paul continue. 4. Selon qu'il nous a choisis en lui avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Dans l'amour, 5. Il nous a prédestinés à être adoptés par lui, comme ses enfants par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Il y a tant de choses dans ces deux versets. Le verset 4 dit que Dieu nous a choisis, c'est-à-dire tous les croyants, avant la fondation du monde. Le concept de Dieu qui choisit n'est pas nouveau dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, Dieu a choisi Abraham, Dieu a choisi Israël, et ainsi de suite. Mais la chose étonnante à considérer, au verset 4, c'est le moment où tout cela s'est produit. Le quand. Ce n'est pas comme si tu étais né et que Dieu disait « Très bien, voyons un peu comment sera cette personne, avant de faire un choix. » Ce n'était pas comme ça. Ce n'était pas une audition. Non. Il est dit « avant la fondation du monde ». Voilà le quand. Autrement dit, avant que Dieu ne crée le monde, il t'a choisi. Dieu t'a choisi. Voilà le qui. Maintenant, bien souvent lorsque nous parlons de cela, ce que les théologiens appellent la doctrine de l'élection, cela peut rapidement devenir un débat philosophique ou théorique. Mais je ne pense pas que lorsque Paul a écrit le chapitre 1, il espérait que cela conduise à des débats philosophiques et théoriques. Je ne pense pas que c'était l'intention. Je pense que l'intention était que les gens à Éphèse prennent du recul et soient émerveillés que Dieu les ait choisis intentionnellement et dans un but précis. Ce jour-là, j'ai été sélectionné pour recevoir un prix, lors de ma remise de diplôme. Penses-tu qu'avant d'accepter le prix, j'ai dit « Expliquez-moi exactement comment le processus de sélection s'est déroulé ?» Ce n'est pas ce que je me disais. J'étais simplement étonné et heureux qu'il m'ait choisi. Paul dit à l'Église que notre Dieu est incroyable. Il est tellement incroyable que tu étais dans sa pensée avant même qu'il ne crée la terre. Donc, il n'a pas créé la terre en se demandant « Qu'est-ce que je vais faire de cet endroit ?»« Je sais, je vais mettre des gens ici. » Non, ce n'est pas la suite des événements. Avant qu'il ne pose les fondations du monde, il t'a choisi. Alors, avant que Dieu ne crée une montagne, il t'a choisi. Avant que Dieu ne crée les océans, il t'a choisi. Avant que Dieu ne crée cette terre sur laquelle nous nous tenons, il t'a choisi. Avant que Dieu ne crée le soleil, il t'a choisi. Avant que Dieu ne crée la lune, il t'a choisi. Avant que Dieu ne crée les étoiles, as-tu compris ce que Paul dit ici au verset 4 ? Avant que Dieu ne crée quoi que ce soit, il t'a choisi. Il ne s'est pas contenté de savoir que tu allais exister. Il ne s'est pas contenté de te créer. Mais il savait aussi qu'il te sauverait, afin que tu sois saint et irréprochable. L'a-t-il fait parce qu'il y était obligé ? En était-il contraint ? Non. À la fin du verset 4, il est dit qu'il l'a fait dans l'amour. C'est par un choix libre que Dieu a décidé de nous créer et de nous sauver. Dans l'amour, il nous a prédestinés à être adoptés par lui, dit le verset 5. Le mot prédestiné se trouve 6 fois dans la Bible, dont 2 fois ici, dans Éphésiens chapitre 1. Cela signifie décider quelque chose à l'avance. La fin du verset 5 souligne le même point en disant qu'il nous a adoptés selon le dessein de sa volonté. Une fois que nous devenons croyants, nous sommes accueillis dans la famille de Dieu. Nous sommes adoptés. Dieu est notre Père, et nous sommes ses enfants. Voilà le quoi du fait d'être choisis. Nous sommes introduits dans la famille de Dieu, et nous recevons tous les droits et privilèges qui en découlent. Quelques-uns de nos bons amis, chez nous, ont adopté une jeune fille, et chaque fois que nous leur rendons visite, c'est merveilleux de voir sa personnalité, sa joie, et à quel point cette fille est heureuse avec nos amis. Elle est passée d'un foyer qui ne pouvait pas s'occuper d'elle, à un foyer qui la voulait, et qui l'aimera tous les jours de sa vie. Voilà l'esprit du langage de l'adoption ici. Ce n'est pas comme si quelqu'un nous avait déposé devant la porte de la maison de Dieu, avait sonné à la porte, puis s'était enfui. Et ensuite, Dieu ouvrait la porte, nous voyait et disait « Eh bien, je suppose que je vais prendre Clint, parce que personne d'autre ne le fera. » Ce n'est pas du tout l'idée ici. C'est tout le contraire. Dieu nous a choisis. Il a fait une fête au ciel avec les anges lorsque nous sommes nés de nouveau. Dieu ne nous a pas adoptés parce qu'il y était obligé ou contraint. Dieu nous a adoptés parce qu'il l'a voulu. Il te l'a voulu toi. Et à cause de cela, tu fais partie de la famille. Et quand je dis dans la famille, je veux vraiment dire dans la famille. Ce n'est pas un pied dedans et un pied dehors. Parfois, lorsque des enfants sont adoptés, ils craignent que s'ils font quelque chose de mal, leur nouvelle famille pourrait les rejeter ou ne plus les vouloir. Ainsi, chaque jour, dans leur esprit, la relation semble incertaine. S'ils font une bêtise, ils pensent qu'ils seront exclus de la famille. Alors ils essaient de bien se comporter pour que la famille veuille les garder. Et généralement, lorsque les parents s'en rendent compte, cela leur brise le cœur. Car lorsqu'ils ont adopté cet enfant, ils ne l'ont pas fait en fonction de ses performances. Ils l'ont adopté par amour. Et pour les parents, il n'y a rien que l'enfant puisse faire qui leur donnerait envie de le rejeter. Ce n'est pas un pied dedans et un pied dehors. Lorsque nous entendons cette histoire, nous nous demandons « Comment l'enfant peut-il penser ainsi ?» Et pourtant, il est facile de penser de cette manière à propos de notre Père Céleste. Nous pouvons nous dire « Eh bien, si je fais quelque chose de mal, alors Dieu ne m'acceptera plus. » Mais en réalité, Dieu, notre bon Père, affirme que rien ne peut nous séparer de son amour. Personne ne peut nous arracher de sa main. Nous sommes en sécurité et protégés avec lui. En Christ, nous avons un foyer où nous sommes acceptés et aimés. Il n'y a aucune crainte dans ce foyer. L'amour chasse la crainte. Ce n'est pas un pied dedans et un pied dehors avec Dieu. Comment cela est-il possible? Laissez-moi relire le verset 5. 5. Il nous a prédestinés à être adoptés par lui comme ses fils, par Jésus-Christ, selon le dessein de sa volonté. Nous sommes adoptés dans la famille de Dieu par Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est par l'œuvre du Christ, par la foi en lui, que nous passons d'étrangers à membres de la famille. Donc, nous connaissons le qui, c'est Dieu et c'est toi. Nous connaissons le quand. C'était dans l'éternité passée, avant la fondation du monde, quand il t'a choisi. Nous connaissons le quoi. Nous sommes adoptés et devenons membres à part entière de la famille. Nous connaissons le comment, par Christ. Mais qu'en est-il du pourquoi? Verset 6. À la louange de la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Pourquoi Dieu a-t-il fait tout cela? Afin que nous puissions louer son saint nom. Il l'a fait pour sa gloire. Il l'a fait pour mettre en évidence sa grâce extraordinaire. Vous savez, au fil de la vie, il est facile de nous voir comme les personnages principaux de nos histoires. Ainsi, nous regardons en arrière et voyons de grandes décisions que nous avons prises et qui ont marqué des tournants dans nos récits. Ou peut-être, nous repensons à notre vie et regrettons les choses que nous n'avons pas faites. et nous pouvons tout envisager à travers le prisme de nos propres actions et choix, en tant que personnages principaux de nos histoires. Mais lorsque nous lisons le début de l'Épître aux Éphésiens, qui est le personnage principal? Est-ce toi ou est-ce Dieu? C'est Dieu qui t'a béni. C'est Dieu qui t'a choisi par amour. C'est Dieu qui t'a adopté par Christ. Alors, quel pourcentage vient de nous et quel pourcentage vient de Dieu? C'est 100% fondé sur la grâce incroyable de Dieu. Pourquoi a-t-il fait tout cela? À la louange de sa grâce glorieuse, pour mettre sa grâce en évidence. Comme nous le verrons plus loin dans le chapitre 2, nous étions incapables de contribuer au processus. Nous étions spirituellement morts dans nos péchés et nos offenses. Mais Dieu, dans sa riche grâce et sa miséricorde, est intervenu pour nous sauver. Pourquoi? À la louange de sa grâce glorieuse, pour mettre sa grâce en évidence. Le monde vous dira que cette vie tourne autour de vous, vous, vous. Pense à toi-même. Fais de toi ta priorité. Trouve-toi. Mais cela reste finalement un objectif vide. Combien d'histoires avons-nous lues sur des personnes qui ont atteint le but ultime, que ce soit dans le sport, dans le monde des affaires, ou par la célébrité? Ils arrivent au sommet, réalisent tous leurs objectifs, mais disent qu'ils se sentent toujours aussi vides. Ils se demandent, et maintenant, cette satisfaction qu'ils ont recherchée, pour laquelle ils ont travaillé et espéré, n'est pas là. Pourquoi cela arrive-t-il? C'est parce que nous n'avons jamais été faits pour être le personnage principal de notre histoire. Nous n'avons jamais été faits pour être en première place. Seul Dieu peut satisfaire votre âme. Vivre pour sa propre gloire ne fonctionne pas. Mais, lorsque tu comprends qu'il est le personnage principal de l'histoire, lorsque tu comprends que c'est son œuvre en toi qui agit, lorsque tu comprends que tu n'as jamais été destiné à recevoir toute la gloire, mais que c'est lui qui la mérite, alors et alors seulement, tu peux commencer à comprendre sa grâce incroyable. Paul continue. 7. En lui nous avons la rédemption par son sang, le pardon de nos offenses, selon la richesse de sa grâce. 8. Que Dieu a répandu abondamment sur nous, en toute sagesse et intelligence. Par Christ, nous avons la rédemption, dit Paul. À cette époque, la rédemption signifiait libérer un prisonnier ou un esclave. Et c'est l'œuvre que Christ a accomplie dans nos âmes, à travers la croix. Il est allé de son plein gré à la croix, non pas pour payer ses propres péchés, car il n'en avait pas, mais pour payer nos péchés par sa mort sur la croix. Nous passons de la mort dans nos offenses à la liberté et à la vie en Christ. Pourquoi a-t-il fait cela? Selon la richesse de sa grâce, qu'il a répandue sur nous avec abondance. Le mot « répandre avec abondance » implique l'extravagance, cela implique l'abondance et la générosité. En d'autres termes, Dieu ne t'a pas simplement regardé et saupoudré un peu de grâce sur toi en disant « ça suffit, il faut que j'en garde pour d'autres personnes ». Non, il n'a pas juste saupoudré un peu de grâce sur toi, il a répandu sa grâce sur toi avec profusion et générosité. Commences-tu à comprendre? Comment as-tu été racheté? Était-ce parce que Dieu était impressionné par toi? Était-ce à cause de certaines bonnes actions que tu as faites? Non, c'est à cause de la richesse de sa grâce qu'il a répandue sur toi. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le dessein bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Cela a été un mystère pendant longtemps, cela a été caché, mais maintenant cela a été révélé par Jésus-Christ. En d'autres termes, Dieu a toujours eu un plan, Dieu a toujours eu un dessein. La volonté de Dieu s'accomplit au moment choisi par Dieu. Jésus n'était pas le plan B. Jésus a toujours été le plan A. Le plan de Dieu a toujours été le salut par son Fils. Son plan a toujours été la grâce. Son plan a toujours été d'unir toutes choses en Christ, les choses dans les cieux et celles sur la terre, en une seule. Pour reprendre le langage du cinéma, non seulement Dieu est le personnage principal de l'histoire, mais il en est aussi le réalisateur. Son plan est en train de se réaliser. Son dessein est en train de s'accomplir. Quand tu lis les nouvelles du monde aujourd'hui, il est facile de se sentir effrayé et inquiet. On peut avoir l'impression qu'il y a du chaos partout. Parfois, on peut avoir l'impression que le mal est en train de gagner. Mais, lorsque tu lis Éphésiens 1, tu comprends que Dieu n'est pas stressé au ciel. Dieu n'est pas inquiet. Dieu ne panique pas. Non, il a le contrôle. Ses plans ne seront pas contrecarrés. Ses desseins s'accompliront. Il n'est pas tombé de son trône. Il règne et gouverne. Il est puissant. Il est tout-puissant. Et peu importe ce qui se passe dans le monde, nous savons qu'il a le contrôle et qu'il a un plan et un dessein. 11. En lui nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté. 12. Afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Dans ces deux versets, Paul parle de lui-même et des autres croyants juifs. C'est de ce « nous » dont il s'agit ici. Et dans les deux versets suivants, lorsque Paul écrit « vous », il fait référence aux croyants qui n'étaient pas juifs. Mais encore une fois, tu retrouves tous les mêmes thèmes dans les versets 11 à 12. En tant que fils et filles adoptifs de Dieu, nous ne sommes pas simplement membres de la famille, mais nous sommes héritiers. Nous avons un héritage que, selon Pierre, ne peut ni périr, ni se corrompre, ni se flétrir, mais qui est gardé dans les cieux pour nous. Toutes ces choses arrivent selon le plan et le dessein de Dieu. Pourquoi ? Verset 12. À la louange de sa gloire. Dernier verset. 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. 14. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire. Souviens-toi, lorsque Paul écrit « vous », il s'adresse aux chrétiens non-juifs. Ainsi, alors que le plein plan de Dieu était un mystère pour les Juifs, les non-Juifs n'en savaient rien. Ils devaient donc entendre la parole de la vérité. Ils devaient entendre la bonne nouvelle de l'Évangile. Quelqu'un devait leur parler de Jésus. Pour qu'ils puissent faire quoi? Le verset 13 dit « croire ». Donc, pendant tout ce temps, tu as peut-être pensé « d'accord, Dieu est le personnage principal. Dieu a fait le plan. Dieu a ouvert le chemin. Dieu lui-même est descendu sur terre pour me racheter, à la louange de la gloire de sa grâce. Alors tu te demandes, que dois-tu faire? Paul dit, crois-le. Maintenant tu pourrais entendre cela et dire, c'est trop facile. Ça ne peut pas être tout. Je dois faire quelque chose. Si tu penses que c'est trop facile de simplement croire et accepter ce que Dieu a fait, je te mets au défi de le faire. Puis dis-moi si c'est vraiment facile. Car, avec mon expérience et dans ma propre vie, la chose la plus difficile à croire pour moi a été que Dieu est si plein de grâce, qu'il puisse tout savoir de moi, tout ce que j'ai fait, tout ce que je ferai, et que malgré tout, avant même d'avoir créé une montagne ou une étoile, il puisse dire « Clint, tu es à moi ». Toutes les autres religions du monde parlent d'êtres humains tentant d'atteindre Dieu, généralement en accomplissant certaines œuvres. Le christianisme, c'est Dieu qui descend vers nous, par amour, pour sauver un misérable comme moi. Le jour de ma remise de diplôme, lorsqu'ils ont annoncé qu'ils avaient sélectionné mon nom pour ce prix de mission, je savais que je ne méritais pas d'être sur cette scène avec les autres meilleurs étudiants. Je ne sentais pas avoir travaillé comme eux. Mais malgré tout, ils ont appelé mon nom ce jour-là. Ils m'ont choisi. Et j'aurais pu rester assis et refuser le prix, ou je pouvais monter sur la scène et l'accepter. Quel est notre rôle? C'est de croire, c'est d'accepter l'extraordinaire don de grâce de Dieu. Plus tôt, j'ai dit que très souvent, la doctrine de l'élection devient un débat philosophique et théorique. Et dans ma jeunesse, j'ai participé à bon nombre de ces débats. Et le débat classique porte sur le choix. Il y a généralement deux camps. Un camp affirme que tout vient de Dieu, et que nous, en tant qu'êtres humains, n'avons pas de choix. L'autre camp affirme que les humains ont un choix, et que l'élection de Dieu repose sur la connaissance de ce que les gens choisiraient. C'est le débat classique, entre la souveraineté de Dieu et la responsabilité humaine. Quand j'étais plus jeune, je m'engageais dans des débats furieux à ce sujet. Mais en vieillissant, Dieu m'a donné plus d'humilité sur cette question. Les jeunes, c'est l'un des avantages de vieillir. Plus d'humilité et plus de grâce. Aujourd'hui, je suis donc plus enclin à dire que je ne sais pas exactement comment ces deux choses fonctionnent, mais je les vois toutes les deux dans les Écritures. Comme nous l'avons vu aujourd'hui dans Éphésiens chapitre 1, nous lisons que Dieu est souverain, qu'il contrôle tout. Mais nous lisons aussi, au verset 13, que nous sommes appelés à croire. En d'autres termes, je pense que les deux choses sont vraies. Dieu est souverain, et nous sommes responsables de nos actions. Cela peut sembler être des choses opposées, mais dans la Bible, elles sont en harmonie. Quelqu'un a demandé un jour au prédicateur britannique Charles Spurgeon comment il réconciliait ces deux enseignements qui paraissent inconciliables. Spurgeon a souri et a dit « Je ne réconcilie jamais des amis. » Autrement dit, nous pouvons trouver un problème dans ces deux choses, mais dans la parole de Dieu, il n'y a pas de problème. Dieu est au contrôle et nous sommes tenus responsables de nos actions. Permettez-moi de relire ces deux derniers versets encore une fois. 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, et cru en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, 14 lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire. Dans Éphésiens chapitre 1, nous voyons la Trinité à l'œuvre. Nous sommes choisis par Dieu le Père, nous sommes rachetés par Jésus le Fils, et nous sommes scellés par le Saint-Esprit lors du salut. Cette semaine, quelqu'un m'a posé une question au sujet du baptême du Saint-Esprit, l'expression que l'on trouve dans 1 Corinthiens 12. Ici, nous voyons que nous recevons le Saint-Esprit au moment du salut. Lorsque nous croyons en Jésus, nous sommes scellés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient dans notre vie et y demeure. Le Saint-Esprit nous conduit, nous guide et nous convainc de péché. Il existe certains enseignements qui prétendent que la présence du Saint-Esprit vient plus tard, après le salut, comme s'il y avait deux étapes. L'idée est la suivante. D'accord, tu crois en Jésus, mais as-tu déjà le Saint-Esprit? Mais dans Éphésiens 1:13, il n'y a pas deux étapes. Paul dit que vous avez cru en Jésus et que vous avez été scellés du Saint-Esprit, qui est le gage de notre héritage en Christ. Un sceau indique à qui appartient quelque chose. De cette façon, le Saint-Esprit est l'acompte ou l'arrêt de notre héritage. C'est le dépôt le plus sûr qui soit, parce que Dieu en est le garant. Pourquoi? La fin du verset 14 répète le refrain, à la louange de sa gloire, afin que nous puissions voir sa grâce étonnante manifestée. Avant que Dieu ne crée quoi que ce soit dans ce monde, il vous a choisi. Il a pensé à vous. Il a décidé « Je te veux dans ma famille ». Il a un plan pour vous. Il a un but pour vous. Il a un héritage pour vous. Il vous a racheté par le sang du Christ. Savez-vous cela au sujet de Dieu? J'espère que oui. Car quand vous comprenez cela, quand vous le croyez, vous ne serez plus jamais les mêmes.